Alors, en ouverture de notre cycle sur l'espérance, on va d'abord écouter Fabiola qui a passé un an à la mission Isidore, donc une mission en binôme dans des paroisses rurales, donc en l'occurrence elle était dans le Berry. C'est à partir de cette expérience-là dans cette paroisse qu'elle a compris un petit peu ce qu'elle a compris de l'espérance. Et Aurélie, membre de l'association Point Cœur, qui ces dernières années a beaucoup visité des hôpitaux et accompagné des, enfin du coup a eu l'occasion d'accompagner des personnes en fin de vie. Et c'est dans ce cadre-là que je parlais.
Je sais pas où mettre.
Devant le pilier.
Je vais mettre de ce côté-là. Ça va si je suis là. Je reste à vous parce que je suis plus à l'aise. Du coup, bah, donc voilà, donc Catherine m'a demandé de vous parler de l'espérance en partant d'un d'exemples concrets qui soient issus de l'année que j'ai passée au service d'une paroisse rurale dans le centre de la France. Et je vais vous dresser je vais vous parler d'une famille en fait que j'ai rencontrée là-bas, et je vais d'abord vous dresser un rapide portrait de cette famille donc j'étais en binôme avec quelqu'un d'autre pendant ma mission. Et souvent, quand on quittait cette famille, c'est arrivé plusieurs fois qu'on ait une discussion avec ma binôme qui... moi, j'aimais énormément cette famille. Et souvent, elle disait, voilà, c'est quand même chaud, c'est n'importe quoi leur éducation, etc. Et ça m'atteignait. Et je pense que dans cette espèce de combat intérieur qu'on pouvait avoir dans la façon de regarder cette famille, il y avait quelque chose de l'espérance qui se jouait. C'est pour ça que je vais vous parler d'eux, du coup. Donc, ils s'appellent les Manceaux, et le papa, il est issu d'une famille de gitans de la région. Et il a été charpentier, et il a, comme il dit, il a fait un peu tout ce qu'il ne faut pas faire dans la ville. Donc, touche à beaucoup de drogue, voler des trucs, voilà, tout ça. Et il a pas mal de prestance, et il parle bien, enfin, voilà. Et la maman, elle, c'est une enfant de la DAS. Et au contraire, elle dégage plutôt beaucoup de pureté et de simplicité, mais elle paye pas trop de mine. Ils sont un couple un peu étonnant, mais moi qui me touchait beaucoup, et ce que je trouvais qu'ils s'aimaient beaucoup en fait. Et donc ils ont 6 enfants. Quand j'étais en mission, l'aînée elle était en 6e et le petit il avait 1 an. Et au milieu de cette fratrie, il y a un garçon qui est mort quelques années avant que j'arrive là, écrasé sous un tracteur. Et donc ça a été un grand choc pour cette famille, et le papa à ce moment-là, il a arrêté de travailler, et il a sombré dans les jeux vidéo, comme une drogue vraiment, en portant avec lui un peu ses enfants, surtout les garçons. Et la maman, elle s'est convertie à ce moment-là, c'était les voisins de l'église, et elle a frappé à la porte, elle a demandé le baptême pour elle, pour tous ses enfants. Et donc quand on les a rencontrés, elle était baptisée depuis 1 an, et ils n'étaient pas non plus super pratiquants, ils venaient pas souvent à la messe, mais elle, Dieu, c'était toute sa vie. Et en ce sens-là, ma binôme, elle trouvait que c'était quand même un peu n'importe quoi, et moi, j'étais très touchée par sa foi. Et en fait, la façon dont, avec eux, j'ai découvert l'espérance, mais aussi avec beaucoup d'autres personnes qu'on rencontrait, c'est... je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle l'espérance, mais en tout cas, essayer d'entrer... dans la pédagogie de Dieu et dans la façon dont Dieu regarde et élève chacun, et pas plaquer sur les gens ce qu'on pourrait humainement en fait espérer pour eux. Et je pense que parfois j'ai manqué à ça, notamment avec cette maman, parce que c'est vrai, moi aussi parfois je me disais il faudrait qu'elle aille plus à la messe, tu sais, de forcer un peu les trucs, de lui passer un coup de fil en disant viens dimanche, viens avec nous, et en fait en me faisant à moi-même un peu violence, mais en me disant c'est pour la mission, je suis là pour évangéliser et c'est bien. Je pense que petit à petit, je me suis ajustée beaucoup plus à... au lieu d'être un peu comme un chef de projet ou un ingénieur qui gère l'évangélisation des gens et qui s'occupe de les convertir, j'ai essayé de devenir beaucoup plus un petit pion, juste un ouvrier qui, en fait, ne sait pas quel est le plan et quelle forme il prend, et qui espère le royaume pour cette personne, pour cette famille, et pour le monde. Et qui espère le royaume de Dieu, mais qui l'espère comme quelque chose dont on ne sait pas exactement quelle forme ça prend. Et donc, qui est simplement obéissant aux signes et aux ordres du bon Dieu. Et en fait, c'est beaucoup plus reposant parce qu'il n'y a pas besoin de s'occuper de tout et de se demander comment faire. Même si, comme j'ai beaucoup d'idées et d'énergie, je pouvais très vite me projeter dans plein de trucs, mais en fait, c'était beaucoup plus reposant d'être là, peut-être comme un peu la Vierge Marie qui dit me voici, quoi. Et tu sais, c'est une première chose qui m'a marquée par rapport à cette question d'espérance, de ne pas toujours être à l'initiative de tout, mais de laisser Dieu faire. Et enfin, il y a plein de fois où on les a sollicités pour la messe, et en fait, c'était absurde et pas toujours. Enfin, parfois, c'est peut-être que la façon dont Dieu les convertissait, c'était pas forcément en les rendant dès le départ réguliers à la messe tous les dimanches, par exemple. Mais à l'inverse, à un moment, ça nous est tombé dessus un peu comme une évidence, parce que le curé de notre paroisse cherchait à faire une espèce de crèche vivante, et on s'est dit, mais on va demander au manceau. Et lui, donc, il n'allait jamais à la messe, mais elle, de temps en temps, et ils sont venus avec leur petit, qui avait même pas un an, et ils ont été à la sortie de l'église, ils faisaient Marie-Joseph et Jésus, et ils étaient trop heureux, et c'était nul, parce que c'était même pas la messe, enfin, ils avaient été à la messe du coup avant, mais... Enfin, c'était le seul truc qu'ils ont retenu de Noël, et alors qu'en fait, il y avait le Christ qui se rendait présent dans la messe, dans la liturgie, tout ça, et c'était un peu anecdotique, mais en fait, c'était bouleversant, et ils m'en ont... Enfin, en fait, Sophie, donc la maman, elle est morte en décembre, et Cédric, le papa, m'a reparlé de ce moment, et donc lui, il a toujours pas tellement la foi, mais je pense que... Enfin, c'est le moment le plus haut de sa vie de foi, d'avoir fait la crèche à la sortie de cette messe. Et je pense que là, c'était beaucoup plus... du coup, nous, être des petits soldats de l'espérance, de juste devant cette idée qui nous tombe dessus à cause d'une association qu'on n'avait pas du tout pensé comme telle, dire « Ok, Seigneur, on est là, mais on comprend pas tout », plutôt que d'essayer de se faire des plans sur la comète de comment il faut... Enfin, vers où il faut emmener les gens et comment on fait pour les y emmener. Et enfin, quand Catherine me disait, c'était le thème que je devais avoir, espérer contre toute espérance. Et en fait, je me dis par rapport à cette famille que donc les enfants qui passaient tous beaucoup, beaucoup de temps dans les jeux vidéo, etc., ils étaient tous un peu autistes. Enfin, il y en a un qui était diagnostiqué, mais les autres, il y en avait un qui redoublait son CP, il savait à moi même pas tellement parler. Enfin, c'était vraiment compliqué au niveau humain et enfin, au niveau intellectuel, etc. Et je me dis, enfin, c'est des lieux où on peut être... Enfin, si on espère pour eux qu'ils deviennent les piliers d'une société à venir qui serait bonne, intelligente, on a toutes les raisons de désespérer parce qu'en fait, c'est des pauvres. Mais si on accepte qu'on ne sait pas très bien vers où va la Providence, on peut vraiment espérer pour eux. Et une autre chose qui m'a marquée avec cette famille, enfin à propos de l'espérance, c'est que je me suis dit, espérer, il y a espérer ce qui vient, et qui en fait est un royaume dont on ne sait pas exactement la forme qu'il prend. Mais espérer le royaume de Dieu, c'est aussi le voir. Enfin, c'est pas un royaume qui va arriver plus tard, mais c'est aussi un royaume qui est déjà là. Simplement prend des formes un peu étonnantes. Mais par exemple, je me souviens d'une discussion. Déjà, moi j'étais hyper touchée par l'amour de ses parents, qui était étonnant et qui vraiment s'aimait beaucoup et qui s'apportait mutuellement. Enfin, lui, il avait plutôt un côté assez stylé, un peu protecteur, machin, et elle, qui était toute petite et qui je pense puisait beaucoup dans son assurance, en fait, elle faisait tourner toute la maison et c'était elle qui avait la foi et qui apportait beaucoup de légèreté et de solidité aussi à cette famille, quoi. Enfin, je me souviens par exemple d'un moment qui m'avait beaucoup touchée où mon vélo était cassé, très très cassé, et ceux qui me connaissent savent que c'est un objet très important pour moi. et du coup, en fait, je m'étais dit, parce que le papa était hyper bricolo, il faisait rien de ses tournées, il était tout le temps dans les jeux, etc., mais en fait, il était très très compétent. Et j'étais allée chez eux et j'ai passé une après-midi à réparer mon vélo. Il m'a appris plein de roulements à billes et tout, je savais même pas que ça existait. Et il était là avec ses enfants et il leur apprenait. Et c'était... En même temps, il y avait l'immense télé qui était allumée et moi j'avais du mal à me concentrer. Mais je sentais qu'en entrant, je sentais qu'il se passait quelque chose de hyper beau et qui était la joie des pauvres. Je dirais un peu en conclusion que ce que j'ai découvert de cette mission, y a ce que je vous ai dit sur. Le fait de ne pas faire les choses à la force de ses bras, mais d'espérer au sein d'une espérance plus grande dont on ne maîtrise pas vraiment les contours. Et le deuxième truc, c'est, c'est la méga bonne nouvelle qui est de l'évangile, qui, heureux les pauvres car le royaume de Dieu est à eux. Et en fait, jamais comme dans cette mission, je me suis rendu compte à quel point c'était vrai. Et c'était mon cœur se reposait dans cette vérité. Et en fait, et ce qui est aussi la vérité du Magnificat, que Dieu élève les humbles et qu'il renverse les puissants de leur trône, c'est pas un truc, c'est vrai en fait. Et quand je me souviens très bien de ce moment où je suis là à réparer mon vélo assis par terre avec ce petit gars qui parle même pas français et qui sait, à la suite de son père, déboulonner tout mon vélo mieux que moi. Et je me dis, il y a une joie qui renverse tous les puissants de leur trône, quoi, qui est la joie des pauvres. Et on devrait tous aller puiser à cette source, quoi. Je pense que c'est vrai. Enfin, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'évangile, telle que je l'ai vécu, un petit peu en acte, quoi, pendant cette mission. Et que le monde voit pas. Enfin, je pense à. Peut-être que je finirai en vous confiant cette intention un peu, parce qu'aujourd'hui, donc depuis la mort de la maman en décembre, le papa, lui, avant, il faisait rien, donc il a dû se mettre à gérer toute la maison. Enfin, la dernière fois que j'ai été chez eux, c'était en janvier, j'ai passé une journée là-bas et à nettoyer, ça avait pas été. Enfin, c'était vraiment. très laborieux, quoi. Et si la DAS découvre cette famille, les enfants seront enlevés, et enfin, parce qu'il y a pas de, enfin, parce que humainement rien ne va, et en fait je crois qu'ils ont un trésor, quoi, qui est vraiment le trésor du royaume des cieux. Et je pense qu'on, enfin, pourquoi c'est bon d'aller plus, enfin, de se mettre un peu plus au service des pauvres, c'est aussi parce qu'on y découvre le royaume, enfin. Et je sais pas, enfin, j'ai pas bien les mots pour le dire, mais c'est pas une blague. Enfin, j'ai envie de moi-même de me secouer et de secouer les gens autour de moi en leur disant, enfin, nous tous qui lisons à la messe, qui lisons les béatitudes, qui lisons le Magnificat, c'est la vérité, et donc on devrait vivre conformément à ça, quoi. Et c'est radical en termes de pauvreté, mais c'est ça détrône tous les puissants, parce que les puissants sont plus rien face à cette joie là, quoi. Et peut-être, enfin, j'ai encore 2 minutes, quoi. Non, j'ai plus. Si. Je voulais juste, mais je sais pas où je voulais dire. Ah si. Je voulais juste vous lire le Magnificat, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup habité cette année. Et donc, cette famille, c'est un peu une image de ça, je trouve. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Voilà.
Je reprends à mon compte aussi ce Magnificat comme prière d'introduction. Ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est vraiment la prière d'action de grâce de celui, de celle qui a conscience qu'il est choisi pour quelque chose qu'il dépasse aussi, je trouve. Voilà. Alors, Catherine m'a demandé de vous partager un peu mon expérience auprès des personnes malades. Et peut-être plus particulièrement, j'en parlerai à la fin, des personnes en fin de vie. Donc c'est à la fois des personnes que j'ai pu rencontrer dans différentes missions que j'ai faites avec l'association Point Cœur, donc dans différents pays. Mais aussi, depuis 1 an et demi, je fais des visites à l'hôpital de Compiègne, dans le cadre de l'aumônerie de l'hôpital. On est plusieurs bénévoles. Et donc, j'y vais deux après-midi par semaine, tout particulièrement en service d'oncologie et parfois en soins palliatifs aussi. Donc, je partagerai un peu tout ça. Je vais le faire de manière toute simple, en vous parlant aussi de personnes, de rencontres. Et puis, je voulais vous partager aussi quelques citations de Benoît XVI, en lien justement avec avec ce thème. Peut-être que ce petit témoignage pourrait s'appeler « Du besoin d'une présence ». je crois que c'est d'abord un besoin très très profond du cœur humain, dont on fait tous l'expérience et tout au long de notre vie, quelle que soit notre condition, notre âge, et de manière plus particulière encore dans les moments qui sont douloureux, d'avoir quelqu'un qui partage notre souffrance, notre peine. Ça m'a frappé juste la semaine dernière, là, en entrant dans le service d'oncologie. Je suis allée voir le docteur et puis ensuite l'infirmière m'a dit « Mais vous pourriez aller voir peut-être tel monsieur, parce que ce matin, justement, il m'a dit cet après-midi, est-ce que si vous avez un peu moins de travail, vous pourrez rester avec moi un petit peu ?» Et elle m'a dit il a besoin de quelqu'un qui soit là près de lui. Et c'est aussi soif, ce besoin d'une présence, c'est aussi ce cri qu'on entend souvent dans les... Enfin, en tout cas, cette question qu'on entend souvent dans les couloirs d'hôpitaux. Ça me frappe toujours. Alors, c'est particulièrement dans les services de gériatrie où parfois les personnes sont un peu désorientées puis déambulent dans le couloir. La question, c'est, il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Voilà. Et je pensais aussi, un peu pour introduire ce dont je vais parler ensuite, à une personne que j'ai rencontrée en Grèce, une dame qui s'appelle Florence. Et pour moi, l'histoire qu'on a vécue avec elle et montre de manière éloquente ce besoin d'une présence et l'espérance justement que peut apporter une simple présence. Florence, c'est une femme qui vient du Congo. En fait, on l'a rencontrée à la sortie d'une messe en Grèce. On était à la messe de la paroisse. Et puis, elle vient vers nous. Et puis, elle voit qu'on parlait français. Elle cherchait quelqu'un qui parle français. Et puis, elle commence à nous raconter un peu sa vie qui était... enfin, en tout cas, les derniers mois de sa vie. Et à nous dire, mais est-ce qu'on peut se revoir? Et est-ce qu'on peut... J'ai besoin de parler plus. J'ai besoin de pouvoir... déposer ça en fait, ce que j'ai vécu. Et puis on l'a invité à venir au Point Cœur, à prendre un thé avec nous, et puis nous a raconté un peu son histoire, qui était de fait terrible. Et en fait, au Congo, il y avait à ce moment-là, c'était il y a quelques années, une dictature et une répression contre les chrétiens. Et en fait, elle était à prier dans l'église, et des gens armés ont débarqué dans l'église, ont commencé à tuer les gens. Et elle s'est enfuie avec son mari et sa fille. Ils ont tué son mari et sa fille sous ses yeux. Et puis ensuite, elle a été emprisonnée. Bon, elle a vécu, les pires choses qu'on puisse vivre dans un contexte pareil. Et puis un jour où elle a été torturée, il y a un des gardiens qui a entendu qu'en fait, elle criait dans sa langue maternelle, dans un dialecte. Et il a reconnu qu'ils étaient de la même ethnie et il l'a fait sortir de l'endroit où elle était emprisonnée. Et puis elle a voulu retourner dans son village. Elle s'est rendue compte qu'en fait, si elle voulait rester au Congo, elle était recherchée en fait. Sa vie était vraiment en danger. Donc elle a fui. Elle a traversé par la Turquie, ensuite tout ce qu'on voit parfois à la télé sur les réfugiés là qui traversent, qui passent de la Turquie sur les îles grecques. Et puis donc elle est arrivée sur une île grecque. Dans un grand centre qui accueillait les personnes dans la même situation qu'elle. Et assez vite, les responsables ont vu qu'elle était malade et donc l'ont envoyée à Athènes. Et donc, c'était le moment où elle nous a raconté ça, c'était vraiment, je pense, le premier moment où elle racontait, où elle pouvait raconter tout ça dans sa langue, enfin en français. Et elle revivait en même temps tout ce qu'elle avait vécu. C'était un moment extrêmement douloureux. Moi, je me souviens de me dire, mais comment c'est possible une telle succession de souffrances, en fait. Et d'avoir simplement, à ce moment-là, en fait, j'ai pleuré avec elle. Et sa question, c'était, mais est-ce que Dieu m'a abandonnée? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et pourquoi Dieu m'a abandonnée? Alors que c'était une chrétienne extrêmement fervente, mais te dire, mais où est Dieu dans tout ça, finalement? Et puis, quelques jours après, on l'invite à la maison à déjeuner. Et en fait, donc au début, elle était toute intimidée. On sentait très marquée aussi par tout ce qu'elle avait vécu. Et puis, alors, le repas se passe. La volontaire, c'était une volontaire roquine, une volontaire ukrainienne, avait fait une belle pizza, un bon déjeuner pour l'accueillir. Et le dessert arrive et c'était une coupe de glace. Mais on voyait que le soin qu'avait pris Rocky pour vraiment l'accueillir. Donc il y avait, elle l'avait super bien décorée. Enfin, c'était très très beau. Et là, j'ai vu Florence sourire, mais vraiment un sourire d'une oreille à l'autre. Et comme quelque chose qui... je me disais, en fait, son cœur redevient... Il y a une chaleur qui revient en elle, en fait. Et puis, on est passé au salon. Et là, il y a une des filles qui a vu que son vernis à ongles était écaillé. Bon, et puis qui lui dit, est-ce que tu veux que je te fasse les ongles? Donc, elle fait les ongles à Florence. Et puis après, elle dit à Florence, est-ce que je te fais aussi les pieds? Et Florence dit oui. Et c'était très touchant pour moi de voir cette volontaire qui était au pied de Florence en train de lui remettre du vernis. Et je voyais qu'à travers ce geste-là, qui est un geste très simple, en fait, très voilà, banal, enfin, je pense que les filles savent de quoi je parlais, il y avait quelque chose qui se produisait pour Florence qui était beaucoup plus grand, en fait. C'était comme quelque chose lié à sa dignité, à sa beauté, en fait, qu'elle redécouvrait. Ouais. Et puis ensuite, on a commencé à chanter. C'était assez vivant, voilà, il y avait les guitares, etc. Puis je dis à Florence, est-ce que tu as envie, toi, de chanter quelque chose? Et elle a dit oui. Et puis elle a fermé les yeux, elle a ouvert les mains et elle a commencé à chanter quelque chose. Et c'était extrêmement beau. Alors, c'est pas qu'elle avait une voix splendide, mais c'était vraiment qu'elle chantait de toute son âme, quoi. Il y avait quelque chose, enfin, tout son être qui s'était réouvert, qui, enfin... Et pour moi, je voyais, c'était comme la vie, en fait, qui recoulait en elle, enfin, l'eau qui revenait, la vie qui revenait. Et puis après, je lui dis, mais en fait, c'est... Qu'est-ce que tu disais dans ce chant? C'était pas en français, c'était dans son dialecte. Et elle dit, en fait, je remerciais Dieu. Et ça m'a... J'ai repensé, je me suis dit, mais c'est quand même assez étonnant. Je remerciais Dieu pour de vous avoir rencontré, de plus être seule. Et je me disais, c'est étonnant. Il y a quelques jours, elle disait à Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonnée? Et maintenant, elle remercie Dieu. Et tout cela est passé par des choses extrêmement simples, en fait. Simplement par une présence... qui s'est manifestée ben, par je sais pas, un repas, une coupe de glace, un peu de vernis, de la guitare, et puis cette affection, cet amour qu'on a essayé de lui porter. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée à comprendre justement ce besoin de... Ouais, ce besoin de au sein d'une forme de mort, dont je vais parler ensuite après, de cette présence, en fait. Qui aide à aller jusqu'au bout, finalement. Alors, je voulais, pour illustrer ça, vous lire une citation de Benoît XVI. Tous les extraits, ce sont des extraits d'une homélie sur le samedi saint. Il y a une angoisse, la vraie, celle qui est nichée dans la profondeur de nos solitudes, qui ne peut être surmontée au moyen de la raison, mais seulement par la présence d'une personne qui nous aime. Cette angoisse, en effet, n'a pas d'objet auquel on puisse donner un nom. Elle est seulement l'expression terrible de notre solitude ultime. Qui n'a pas déjà ressenti la sensation effrayante de cette condition d'abandon? Qui ne percevrait pas le miracle saint et consolateur d'une parole d'affection dans ces circonstances? Et puis un peu dans le même sens, un autre mot de Vladimir Gika, que j'aime particulièrement, qui a aussi beaucoup servi les personnes qui souffraient. Il dit en fait que la consolation réside dans la présence d'une personne qui nous aime et que le raisonnement est insuffisant. Et voici ce qu'il dit quand même. Elle serait pleine, puissante et calme, cette raison. On sent que sa seule réponse à un problème comme celui de la douleur aurait quelque chose de froid, d'incomplet, d'inefficace. On sent que cette réponse tomberait bien à côté de nous. Que peut un raisonnement à une blessure d'amour? Quel bien profond peut-il lui faire? Et n'est-elle pas digne aussi d'être illuminée par autre chose qu'un pâle reflet d'intelligence créée? Nous savons que la raison n'a pas tort, mais nous savons que nos larmes ont un peu raison, parce qu'elles ont raison de nous-mêmes. Donc c'est un peu ce dont je voudrais vous parler maintenant, peut-être en trois points. Cette présence qui redonne espérance, d'une certaine manière. Et face à cette angoisse, à cette solitude dont parle Benoît XVI, et qui revêt un caractère évidemment beaucoup plus fort au moment de la maladie, et encore plus fort au moment de la mort. Alors j'ai pensé un peu à peut-être trois couleurs, trois caractéristiques de cette présence auprès de ceux qui souffrent. Je dirais d'abord une présence qui essaye de manifester la proximité de Dieu, de manifester que Dieu n'a pas abandonné la personne à son sort, et qui manifeste ultimement que Dieu finalement est proche, n'est pas loin. Ça me frappe beaucoup en fait de voir que dans le service d'oncologie où je vais, ce dont les malades parlent beaucoup, c'est pas tellement de la maladie, c'est pas tellement de, je sais pas, telle limitation du fait de la maladie ou de telle souffrance, mais souvent ils parlent des moments douloureux de leur vie. Je me souviens d'une dame qui s'appelait Annie. À un moment donné, elle me dit en fait, je n'arrive pas à pardonner à ma mère qui ne m'aimait pas, enfin qui était violente avec moi. Et elle le disait vraiment avec beaucoup de, enfin avec une douleur immense. Ou un monsieur qui était c'était dans un autre service, mais un monsieur extrêmement touchant qui s'appelait Franck, et lui il me parlait du suicide de sa fille. Il dit en fait j'en parle jamais, enfin je n'ai réussi que ici à l'hôpital à pleurer, mes larmes étaient taries. Ou d'une autre femme qui s'appelle Rosalba, dont je vais vous parler tout à l'heure, un peu comme tu l'as fait avec cette famille qui t'a tellement marquée. C'est aussi une très belle rencontre de ces pauvres qui sont nos lumières finalement. Ouais. Et Rosalba, elle, en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, je lui ai dit, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous aimeriez qu'on prie? Et elle s'est mise à pleurer et elle me dit, vous savez, ça fait longtemps que je prie plus. En fait, j'ai divorcé et est-ce que cette maladie, c'est une punition de Dieu? En fait, elle croyait que voilà que parce qu'elle avait elle avait eu cette vie extrêmement compliquée, parce qu'elle avait divorcé, qu'elle s'était ensuite remariée, etc. Cette maladie était une punition de Dieu. Et donc toutes ces personnes ont besoin de déposer ça devant Dieu. Et peuvent le faire, je pense, s'ils perçoivent que Dieu ne les a pas rejetés, qu'il n'est pas loin, en fait. Et c'est quelque chose qui me frappe beaucoup de voir certaines personnes de l'hôpital qui, parce qu'elles sont humbles, c'est vraiment ces pauvres de cœur que tu décrivais tout à l'heure, je pense, qui à travers notre présence, finalement, perçoivent que Dieu n'est pas loin. C'est une dame qui s'appelle Louise, que j'ai rencontrée peut-être il y a 2 mois à l'hôpital, une femme tzigane. Et elle est... vous voyez, c'est une femme toute... vraiment très humble. Enfin, elle me dit, elle ne sait pas lire. Puis on voit dans sa manière de parler que... elle ne parle pas très français. Et puis, une femme avec un très grand cœur. Enfin, quand elle parle, on sent qu'elle aime les gens qui l'entourent. Enfin, c'est... Et puis elle me dit, elle dit toujours mon Seigneur quand elle parle, quand elle s'adresse à Dieu, puis parfois elle le prie comme ça, mon Seigneur, Barudeval. Alors ça c'est le mot dans sa langue pour dire le Tout-Puissant. Tu m'aimes, tu m'as envoyé 2 personnes aujourd'hui et en fait j'étais une des personnes que Dieu lui avait envoyée. Et je trouve ça extrêmement touchant, cette capacité, ce regard de foi, en fait, qui reconnaît tout simplement la consolation de Dieu. Enfin, c'est en fait le mystère de l'incarnation, à travers des personnes concrètes. Voilà. Ou cet homme, Franck, là, dont je vous ai parlé, qui disait ça aussi, mais en fait Dieu s'intéresse à moi parce qu'il vous a envoyé pour me redonner un peu d'espoir. Alors, et dans ces cas-là, je pense qu'on fait aussi cette expérience qui a quelque chose de mutuel. Enfin, c'est comme une visitation mutuelle. Enfin, moi, à travers ces âmes si pauvres et simples et lumineuses, on fait aussi l'expérience de Dieu et d'être visité d'une certaine manière. Alors, la deuxième chose peut-être dont je voulais parler pour évoquer cette présence auprès des personnes malades, il me semble que cette présence auprès des malades, auprès des personnes qui parfois sont proches de la mort, c'est une présence qui souvent est silencieuse et aussi qui conduit au silence. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais dans le sud de la France. Je faisais souvent des visites dans une maison de retraite. Et il y avait une maison de retraite, il y avait une des chambres où la dame était en train de mourir. Elle s'appelait Yvette. Et il y avait la télé à fond. En fait, et je me souviens d'être entrée dans la chambre. Je pense que c'était le personnel qui, en fait, se disant on ne peut pas rester près d'elle, donc on lui met la télé un peu comme une présence, comme un. Voilà. Mais il y avait quelque chose de, comment dire, dans ce bruit, il y avait presque quelque chose, enfin il y avait même quelque chose d'indécent, enfin moi qui m'a vraiment blessée, parce que c'était vraiment comme pour fuir le silence, pour fuir ce moment. Et je pense que c'est le moment de la mort, c'est un moment dont beaucoup ont peur, et c'est un moment qu'on fuit, et on fuit ce silence très souvent, et c'est difficile en fait d'être proche de quelqu'un qui souffre et de rien pouvoir faire, enfin de juste être là. Et il y avait, je me souviens d'une dame qui un jour elle était face à sa maman qui était en train de mourir, et puis elle me dit, mais en fait qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux prier, voilà, c'est quelque chose de tellement je sais pas, on est démunis, il y a quelque chose de vraiment qui nous rebute, qui fait peur. Et je trouve que, enfin, en tout cas, moi, l'expérience que je fais à l'hôpital, c'est de pouvoir aider les personnes, parfois simplement, à rester près de leurs parents, près de leur famille. Et puis, parfois, les introduire dans un certain silence face à quelque chose qui est plus grand, en fait, que... plus grand même que la douleur. Il y a ce mystère de la mort qui approche. Et la semaine dernière, j'étais aussi à l'hôpital. En fait, l'infirmière m'avait dit « Allez voir cette personne, elle est vraiment en fin de vie. » Et moi, je suis entrée dans la chambre, et puis je me suis approchée du lit, puis je m'apprêtais à parler à la dame, à lui dire un petit mot. Et puis là, il y a sa sœur qui est entrée. Et en fait, je pense que sa sœur, elle avait... c'était difficile pour elle de rester dans la chambre avec sa sœur qu'elle aimait tant, et puis en la voyant en train de mourir. Et elle a commencé à me parler. Et puis, avec aussi toute cette révolte de dire pourquoi ça se passe, pourquoi je l'ai quittée, elle a quitté l'Afrique, elle a quitté notre famille... À Noël, elle allait bien. Et pourquoi si vite? Pourquoi? Beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. Et puis, elle m'a demandé, c'est une femme très chrétienne, mais elle me dit, vous croyez au miracle? Alors, c'était... J'ai dit oui, mais c'est sûr qu'elle, elle voulait vraiment prier pour voilà, demander à Dieu ce miracle de la guérison de sa sœur. Mais en fait, moi, ce qui m'a frappée, c'est que je voyais que sa sœur, elle était prête à partir, en fait. Elle était déjà abandonnée. Elle était déjà un peu dans... Ça se voyait sur son visage, ça se voyait dans son être, dans son corps. Et que c'était bon, la sœur qui d'une certaine manière la retenait. Et donc je trouve que dans ces cas-là, on ne peut pas faire de grands discours, mais simplement de prier avec elle, voilà, tout simplement près de sa sœur, et puis, dans la prière, demander ce passage de la révolte à un certain silence, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est étonnant de parfois non seulement de faire aussi cette expérience avec les personnes qu'on accompagne d'un certain silence de Dieu. Dieu qui semble ne pas intervenir, qui semble extrêmement discret. Et je pense que ça fait référence aussi au silence du samedi saint. Un silence qui nous étonne, qui nous dérange, avec lequel on n'est pas à l'aise, en fait. Le vendredi saint, on voit un peu de quoi il s'agit, le dimanche de Pâques aussi. Puis entre les deux, il y a ce vide, en fait, il y a ce silence, il y a apparemment un vide, il y a une absence. Et voici ce que dit Benoît XVI. De la croix, on arrive encore à saisir quelque chose, mais après, c'est le mystère absolu dont on ne conçoit que l'inconcevable. Pour permettre aux hommes de pressentir au moins que c'est ici la place de l'insaisissable, il y a ce hiatus entre le vendredi saint et Pâques, entre le moment où les plaies sont faites et celui où elles sont montrées. Et il dit aussi, nous avons besoin du silence de Dieu pour faire de nouveau l'expérience de l'abîme de sa grandeur et de l'abîme de notre néant, qui s'ouvrirait tout grand s'il n'y avait pas Dieu. Et puis ensuite, je voulais vous parler de cette présence qui, je pense, nous introduit à la prière et tourne vers Dieu, qui est, je pense que... Il y a, d'une certaine manière, on essaie de servir la rencontre de l'âme, hein, de la personne avec Dieu, dans l'accompagnement des personnes malades et plus particulièrement des personnes mourantes. Et je me souviens d'une réflexion mais délicieuse d'un grand-père dans une maison de retraite. Un jour, je quittais la maison de retraite, puis je disais, maintenant je vais à la messe et je vais prier pour vous. Et puis, il m'a dit, priez un peu pour nous, c'est encore ce que vous pouvez faire de mieux. Et puis ensuite, il avait levé les yeux vers le ciel et il avait dit comme ça, au fond, la prière, c'est l'unique porte de sortie. Et j'avais trouvé ça extrêmement profond et tellement juste. Et la semaine dernière, même pas, on est jeudi, donc c'était mardi. À l'hôpital, on m'a appelé pour dans un autre service qui était en neurologie pour aller voir une dame pour laquelle il y avait une demande de sacrement des malades. Et puis l'aumônière m'a téléphoné en me disant « Est-ce que tu es encore à l'hôpital? Est-ce que tu peux aller voir un peu le degré d'urgence s'il faut qu'on demande au prêtre de faire vite vite ou si... » voilà. Et puis l'infirmier m'a dit « Il y a vraiment une... le pronostic vital est engagé, elle va mourir bientôt. D'ailleurs, elle est déjà entrée dans le coma, donc il faut faire vraiment vite. » Et en fait, ça m'a... Je suis allée près d'elle, je me suis dit, je vais prier près d'elle un peu, et puis je me suis dit, j'espère que l'aumônier va arriver à temps. Et j'ai prié le chapelet, tout simplement, et puis à un moment donné, je lui ai dit, je ne la connaissais pas du tout, cette dame, mais je lui ai dit, donc pour chaque mystère, je proposais une intention différente, et puis ce mystère-là, je lui ai dit, si vous voulez... Peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles vous n'avez pas, qui vous ont fait du mal et auxquelles vous n'avez pas réussi à pardonner. Si vous voulez, on peut prier pour demander cette grâce-là à Dieu. Et là, en fait, elle a réagi. Et c'était très impressionnant parce que depuis le début, elle était les yeux clos, enfin, elle avait vraiment pas de réaction. Et en fait, je me suis dit, c'est tellement beau de voir qu'il y a, enfin, que simplement en étant là à côté, on puisse, ouais, enfin, voilà, qu'elle puisse peut-être recevoir cette grâce au dernier moment du pardon, enfin, de pardonner à certaines personnes. Et qu'elle puisse aussi peut-être partir en paix. Et puis après, alors ce qui est encore plus beau, c'est qu'elle a pu recevoir le sacrement des malades, l'extrême onction. Et puis. Et je voulais donc vous raconter l'histoire de cette femme qui s'appelle Rosalba, un peu comme conclusion, enfin, en tout cas comme. Moment central peut-être de ce témoignage. Rosalba, en fait, c'est une femme que j'ai rencontrée donc en oncologie. Et le médecin m'avait dit, il y a cette dame qui est d'origine italienne, essayez d'aller la voir parce qu'elle est très agitée. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui l'a... Ouais, elle est vraiment très agitée par rapport à cette maladie, par rapport à voilà, tout un tas de choses. Donc je suis allée la voir. Et puis, c'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, au début, je lui ai dit... Enfin, on a parlé un petit peu, on a fait connaissance. Et puis, je lui ai dit, mais à la fin de cette première rencontre, est-ce que ça vous arrive de prier? Est-ce que vous aimeriez qu'on prie ensemble? Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle ne priait plus depuis qu'elle était divorcée, mais que c'était une douleur immense. Et puis, est-ce que Dieu l'avait punie? Alors, je lui ai dit, mais non, je vous promets que ce n'est pas une punition de Dieu, cette maladie. Et puis je lui dis, si vous voulez, on prie la Madonna, parce que comme elle est italienne, alors per forza. Et puis elle était toute heureuse, elle s'est assise comme ça sur le bord, je l'ai aidée à s'asseoir, on s'est assise à côté l'une de l'autre sur le bord du lit, et puis nous voilà à prier un Je vous salue Marie à la Madonna. Et puis, je ne sais pas, il y a certaines âmes comme ça, si simples et humbles, ces âmes-là, enfin ces personnes-là méprisent pas des petites choses toutes humbles qui conduisent à Dieu. Et j'ai dit, est-ce que ça vous ferait plaisir si je vous apporte une image de la Sainte Vierge? C'est comme la photo d'une personne, c'est le rappel de sa présence, et comme ça vous pouvez vous tourner vers elle quand vous voulez. Alors elle me dit oui, donc la semaine d'après je me revois là avec ma petite image. Et puis elle me dit, oui, mais en fait là, elle avait une tumeur au cerveau mais qui avait atteint le nerf optique. Elle me dit, c'est trop petit là, il en faut une plus grande. La semaine d'après, enfin d'après, je reviens avec une. Et que je retrouve la fois encore d'après, encadrée par les soins de son mari sur sa table de nuit. Et c'est extrêmement beau parce que de visite en visite, il y a vraiment un chemin qui se faisait par rapport à la prière, en fait. Et je sentais, alors elle me parlait aussi, je sais pas, de sa petite fille qui était tout pour elle. Mais ce qui était important pour elle, c'est qu'on prie ensemble. Et une fois que j'avais prié, je pouvais partir, quoi. Mais c'est voilà. Et puis un jour, je suis arrivée près d'elle et puis je dis, vous voulez qu'on prie? Elle me dit, ouais, mais j'ai pas la force de m'asseoir là. Je dis, mais c'est pas grave, vous restez allongée dans votre lit. Si vous voulez, moi je parle et puis vous unissez à ce que je dis et puis c'est une prière. Et puis, j'ai commencé à chanter le Veni Creator, qui est ce chant à l'Esprit Saint tellement beau. Enfin, pour les malades, je trouve que c'est tellement magnifique, quoi. Entre lave ce qui est souillé, voilà, baigne ce qui est aride, rend droit ce qui est faussé, guéri, etc., etc.
Excusez-moi, j'ai une annonce à faire. Il faut écouter le Lamento della Ninfa de Monteverdi et Alléluia de Buxtehude. C'est merveilleux, c'est divin. Ah. Voilà.
Vous avez retenu les références?
C'était E-H-U-D-E.
Et donc voilà, cette belle prière. En fait, je l'ai chantée. Et puis à la fin, elle me dit... Ça faisait longtemps que je n'avais pas prié comme ça. J'ai trouvé ça très très beau. Et puis je lui ai dit... et puis elle se remet à pleurer en disant, vous savez, je ne priais plus. J'ai dit, mais Rosalba, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement avant, mais c'est maintenant. Il y a quelque chose qui s'est réouvert. C'est comme, c'est un peu comme de l'eau qui recommence à couler. C'est une source. Et là, elle me dit, ah oui, c'est comme de l'eau bien fraîche. Mais j'ai trouvé ça très beau parce qu'on voyait que ça partait d'une expérience qu'elle venait de faire, en fait. Ce sancte spiritus, enfin, qu'elle avait fait l'expérience, en fait, que l'Esprit Saint la renouvelait. Voilà, et puis ensuite j'ai dû partir pendant une dizaine de jours, et pendant cette période-là, elle a eu la visite d'un prêtre aussi qui l'a beaucoup touchée. Et puis ensuite, quand je suis revenue, elle était déjà très très affaiblie, en fait, plus ou moins consciente. Enfin, elle déclinait vraiment, et il y avait toujours beaucoup de monde dans sa chambre. Il y avait son mari, il y avait aussi ses enfants. Et donc moi, dans ces cas-là, j'étais très discrète, en fait. C'est toujours la priorité à la famille. J'allais toujours la saluer parce que je savais que ça lui faisait plaisir. Je lui prenais la main et puis je priais un « Je vous salue Marie » à côté d'elle. Et puis voilà, après, je laissais la place à la famille. Et il se trouve qu'un jeudi, j'arrive dans sa chambre et il n'y avait personne. Et l'aide-soignante me regarde et me dit c'est la fin. Là, je dis, je vais rester à côté d'elle. Et en fait, ça a été un moment tellement beau. D'abord, je me suis approchée d'elle, puis j'ai dit, Rosalba, je crois que tout le monde est venu vous dire au revoir. Parce que j'avais vu aussi les fils, ils étaient venus me parler dans le couloir, ces deux garçons. Et puis j'ai dit, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez partir. Et puis j'ai prié le chapelet à côté d'elle. Alors c'était beau, c'était les mystères lumineux, c'était un jeudi. Le premier mystère, je crois que c'était pour remercier pour sa vie. Le deuxième mystère, pour demander pardon. Voilà, le troisième mystère, c'était par rapport à son mari, voilà, qu'elle puisse aussi, par rapport à ce divorce qui avait été tellement douloureux pour elle, enfin voilà, etc. Et puis le dernier mystère, c'était pour la grâce d'une bonne mort. Et puis ensuite, j'invoquais Saint-Michel, voilà, toute la clique quand même. Il faut quand même avoir un peu de monde de notre côté pour le dernier combat. Et puis, je fais une petite croix sur le front en la bénissant, et puis je me suis assise en silence. Et en fait, elle s'est petit à petit arrêtée de respirer, en fait, et elle est morte comme ça. Enfin, c'était un moment extrêmement beau, à la fois très, très émouvant, un moment vraiment sacré, et en même temps elle était tellement paisible et lumineuse que c'était vraiment d'un autre monde. Et en fait, ça c'est anecdotique, mais c'est aussi très beau parce que à chaque fois quand j'allais la voir, elle aimait que je lui prenne la main. Il est malade souvent, le plus important ne tient pas dans ce qu'on peut dire, mais dans le regard, le contact physique, des choses toutes simples en fait. Et elle aimait que je lui tienne la main, et puis elle me disait toujours que j'avais les mains froides et qu'elle me réchauffait les mains. Et en fait, après quelques minutes, je me suis dit, je vais aller prévenir les médecins qu'elle est morte. Et puis, j'avais la main encore dans la sienne. Et je me suis dit, waouh, son dernier acte d'amour, ça a été encore de me réchauffer les mains, en fait. Je ne vais pas en dire plus. Parce qu'en soi, ça parle de soi-même. Mais je voulais simplement vous lire quelque chose de... Pour conclure, avec Benoît XVI, qui je trouve illustre très profondément cette histoire, et puis l'accompagnement justement de ces personnes en fin de vie. Une chose est sûre, il y a une nuit dans l'obscur abandon dans laquelle ne pénètre aucune parole de réconfort. Il y a une porte que nous devons franchir dans une solitude absolue, la porte de la mort. Toute l'angoisse de ce monde est en dernière analyse l'angoisse provoquée par cette solitude. C'est pourquoi le terme qui désignait dans l'Ancien Testament le royaume des morts était identique à celui par lequel on désignait l'enfer, Sheol. La mort, en effet, est solitude absolue. Mais elle est cette solitude qui ne peut plus être éclairée par l'amour. qui est tellement profonde que l'amour ne peut plus accéder à elle. Elle est l'enfer. Descendu en enfer. Cette confession du samedi saint signifie que Jésus-Christ a franchi la porte de la solitude, qu'il est descendu dans le fond impossible à atteindre et à surmonter de notre condition de solitude. Mais cela signifie aussi que même dans la nuit extrême, où aucune parole ne pénètre, dans laquelle nous sommes tous comme des enfants qui ont été chassés et qui pleurent, il y a une voix qui nous appelle, une main qui nous prend et qui nous conduit. La solitude insurmontable de l'homme a été surmontée depuis qu'il s'est trouvé en elle. L'enfer a été vaincu depuis le moment où l'amour a également pénétré dans la région de la mort, depuis que le no man's land de la solitude a été habité par lui. Dans sa profondeur, l'homme ne vit pas de pain. Dans l'authenticité de son être, il vit du fait qu'il est aimé et qu'il lui est permis d'aimer. À partir du moment où dans l'espace de la mort, il y a la présence de l'amour, alors la vie pénètre dans la mort. Et puis, peut-être juste pour conclure, et parce qu'on en a parlé avec l'une de vous tout à l'heure, avant que vous arriviez de la messe, elle me posait cette question, est-ce qu'il y a des lieux où on peut vivre un peu ça, en fait, cet accompagnement, enfin faire des visites aux malades, etc. Et je lui parlais d'un ami qui s'appelle Guy, que j'aurais aimé, en fait, quand Catherine m'a dit « Est-ce que tu pourrais venir parler un peu de ton expérience ?» Je lui ai dit « Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent faire ça beaucoup mieux que moi. » Et ce monsieur aurait aimé venir ce soir, mais il est très malade et n'a pas pu venir. Mais il fait des visites à l'hôpital Jeanne Garnier, en soins palliatifs, depuis des années et des années. En fait, il a commencé là, lui-même, en accompagnant un de ses amis qui avait le cancer. Et puis, il s'est promis que quand il serait à la retraite, il ferait plus de visites. Et il s'est beaucoup, beaucoup investi dans ce service-là. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais en fait, qui est cette Jeanne Garnier dont l'hôpital porte le nom? Et en fait, cette femme, c'est une Lyonnaise qui, toute jeune, était veuve et qui a rencontré dans la rue une personne mourante. Et en fait, à l'époque, les malades incurables n'étaient pas du tout soignés dans les hôpitaux, comme ils n'étaient pas soignables, entre guillemets, enfin, voilà, ils n'intéressaient personne. Et elle a commencé à recueillir cette femme, et puis ensuite d'autres. Et puis, en fait, c'est celle qui était le précurseur, on pourrait dire, des soins palliatifs en France. Et maintenant, il y a tout un tas d'hôpitaux qui portent son nom et qui vivent un peu de son esprit. Et cet homme qui s'appelle Guy, s'est posé la question de commencer un procès en canonisation pour cette femme. Ça a été accepté. Donc c'est lui qui a été le postulateur de la cause en béatification. C'est pour ça que je me dis, si ça vous intéresse, vous pourriez peut-être le rencontrer un jour. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, je l'ai écouté. Enfin, il pourrait parler des heures de son expérience et de cette femme. Et je pense qu'il a saisi vraiment un enjeu extrêmement important pour notre époque. Il s'est dit, cette femme, c'est un moment particulier quand on voit tout ce qui se passe actuellement autour de la mort, toutes ces lois sur l'euthanasie, etc. Où il y a une alternative à proposer, en fait. Il y a vraiment... j'étais encore très frappée parce que hier, il y a une amie qui fait des visites dans une maison de retraite et elle est allée porter la communion dans cette maison de retraite et elle a rencontré une dame qui lui a dit « Venez prier ». C'était une dame qu'elle ne connaissait pas du tout parce que c'est une dame qui ne communiait pas. Et cette dame lui a dit « En fait, priez parce que j'ai peur, parce que demain je vais en Belgique pour me faire euthanasier, en fait ». Et je pense que cette solitude, cette angoisse face à la mort, on l'a tous, mais que ce qui peut vraiment nous aider à vivre ce passage, c'est la présence justement de quelqu'un à côté, un peu comme la présence de Marie à la croix, en fait, qui au fond ne cherche pas à crier à l'injustice, à dire pourquoi, qui est là silencieusement et puis qui mystérieusement peut-être aide aussi le Christ à aller jusqu'au bout de sa mission. Enfin, en tout cas, il voit qu'il y a quelqu'un, quoi. Ouais. Et voilà. Peut-être ce que je voulais partager.
Dans tout ce que vous dites, vous avez l'air d'avoir une fréquentation extrêmement assez fréquente des hôpitaux. Est-ce que dans les visites aux malades et aux personnes âgées en fin de vie en particulier, dans quelle mesure il y a besoin de cette fréquence, si je puis dire, de tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas, le risque qu'elles oublient, etc. Quelle expérience ?
En fait, je pense que ça dépend de ce que Dieu donne, un peu. Dans le sens où, par exemple, c'est sûr que pour Rosalba, c'était très important d'être là fidèlement. Il y a vraiment un chemin qui s'est fait entre le moment où elle pensait qu'elle était... Enfin, ouais, c'est ça, punie par Dieu. Et puis petit à petit, grâce à la prière, il y a vraiment... Je pense que c'était beau de pouvoir l'accompagner pas à pas jusqu'au dernier moment. Et puis, pour cette femme que je suis allée voir mardi, parce que l'aumônière m'a dit, va voir où ça en est pour le sacrement. J'étais là juste un tout petit moment, tu vois. Et on ne sait pas ce que Dieu fait avec ça non plus, tu vois. Donc je pense que c'est... Après, ce que je trouve important, c'est si de s'engager à une régularité, tu vois. Enfin, même si ce n'est pas forcément une fois par semaine, mais une fois toutes les deux semaines, et de s'y tenir un peu comme dans tout engagement, tu vois. Parce que ça va au-delà de j'ai envie, j'ai pas envie, tu vois. Il y a quelque chose de... parce qu'en fait, on n'a jamais trop envie. Enfin, c'est... L'année dernière, il y avait l'aumônier, votre prédécesseur, qui était là, puis il m'avait dit, il avait fait aussi des visites dans les hôpitaux, il m'avait dit, à chaque fois, avant de frapper à une porte, j'avais la boule au ventre. Je dis, bah ouais, moi aussi. Je crois qu'il y a toujours quelque chose un peu, tu vois, enfin, inconfortable. Et puis on est tout petit, quoi, enfin... Mais je dirais ça, une régularité, tu vois. Et puis après souvent aussi, c'est des choses qui se font aussi en équipe. Moi, il y a le moment où je suis partie et que je ne pouvais pas être près de Rosalba, là, pendant, d'habitude, j'y vais deux fois par semaine, mais j'étais absente 10 jours. Moi, j'ai parlé d'elle à un autre bénévole qui allait la voir. C'est aussi assez beau de dire que les choses ne passent pas que par nous. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Ça répond très bien. C'est une autre question. Vous parlez beaucoup de la relation avec les infirmiers, qui manifestement jouent un rôle. Quel est l'accueil d'un personnel d'hôpital en général, pas seulement les infirmiers, mais aussi l'administration vis-à-vis de ça? Et je sais pas, peut-être que vous êtes dans la maternité catholique, du coup la difficulté se pose moins, mais vis-à-vis de la dimension religieuse d'une telle démarche, est-ce qu'il y a des difficultés qui sont créées, ou est-ce qu'il y a un accueil qui est favorable entre les deux, ou ça dépend?
Ça dépend en fait beaucoup des services et des personnes, je trouve. Nous, on s'est rendu compte, on a parlé avec l'aumônière, qu'il y a encore des lieux ou des services, en tout cas parce qu'on n'est pas assez nombreux, où les gens nous connaissent peu, et donc ne connaissant pas, ils perçoivent pas forcément l'importance. Et là, justement, l'aumônière nous disait qu'elle a été appelée en pédiatrie et qu'elle a parlé avec les médecins, enfin, que c'était un jeune qui lui avait demandé, et qu'il y a comme une porte qui s'est réouverte, en fait, de ce fait-là. En oncologie, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que l'année dernière, il y avait un médecin, une femme médecin, une oncologue exceptionnelle, qui était profondément humaine et profondément croyante, et qui, italienne, et qui, en repartant en Italie, a dit à l'équipe, je pars, mais continuez d'accueillir l'équipe de l'aumônerie comme je l'accueillais moi, parce que l'aspect spirituel est vraiment fait partie d'une personne, en fait, et qu'on ne peut pas nier cette Et je pense que plus les, après, plus le personnel soignant nous voit, et plus ils perçoivent un peu cette importance, et plus ils perçoivent aussi... Moi, je vois qu'au début, ils ne savaient pas trop qui me conseiller, puis maintenant, ils sentent un peu, en fait, vous pourriez voir un tel, ou il y a tel monsieur qui a besoin de présence, ou tel... Cette dame, elle est tellement angoissée, ou celle-là, elle est très catho, elle a un chapelet, ou enfin voilà, il repère un peu les choses. Et je vois, au début, moi, je... Enfin, je vois aussi tout un cheminement qui se fait. Par exemple, maintenant, plusieurs fois, le psychologue m'a demandé mon avis sur telle ou telle personne. C'est étonnant, quoi. Enfin, mais c'est assez touchant. Enfin, ouais. En tout cas, dans ce service-là, on fait vraiment partie à part entière de l'équipe de soins. Après, je pense que ça dépend des hôpitaux, ça dépend des services. Et puis, c'est quelque chose qui se construit, quoi, petit à petit, je pense. Je dirais. Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça?
Comment ça a démarré? Ouais. En fait, bon, moi, ça a démarré, je dirais, cet aspect-là de la compassion, en tout cas, en partant en mission avec Point Cœur. Bon, pour dire les choses de manière très simple, ce qui m'habitait, c'était la présence de Marie à la croix. En fait, quand je priais, je revenais toujours à ce lieu-là. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de particulier. Et en fait, après, en cherchant, j'ai découvert Point Cœur et tout cet aspect de la compassion. Enfin, voilà. Pour faire bref. Et là, plus par rapport aux malades, c'est quand j'étais en mission en Roumanie, quelques temps avant de partir de Roumanie, par amitié pour une personne, elle s'appelle Dana, sa maman était très malade et était chez elle, et on est allé rendre visite à Dana et donc à sa maman. Et il se trouve qu'elle était dans son lit, les autres parlaient dans la cuisine, puis moi je me suis approchée d'elle, puis je me suis juste assise sur le lit, puis... Au début, je n'osais pas trop parler parce qu'elle avait les yeux fermés. Puis elle a ouvert les yeux, elle m'a souri. Puis on a commencé à parler. C'était un échange très beau. En fait, à la fois, elle disait un peu toute sa souffrance, je pense, mais une souffrance un peu de l'âme, d'être arrachée à la vie, de devoir partir d'une certaine manière. Et puis aussi sa gratitude pour la vie. C'était deux choses très mêlées, en fait. Un peu un sacrifice de louange. Enfin, c'était étonnant. Et en fait, quand je lui ai dit au revoir, je pressentais qu'elle allait mourir. Enfin, c'était comme ça, c'était comme un pressentiment, une intuition, on peut dire. Et il se trouve que la personne avec qui j'étais, qui faisait des études de médecine, me dit non, elle va pas mourir, elle n'a pas encore les signes de la mort et tout ça. Et en fait, il se trouve qu'elle est morte le lendemain. Enfin, et en fait, dans cette visite-là, j'ai senti qu'il fallait que je... Enfin, c'était à la fois un désir et un appel, tu vois, de que je sois près de ces personnes-là. Et puis, il se trouve que quand je suis arrivée en France, je connaissais la personne qui était l'aumônière. J'étais à côté de l'hôpital de Compiègne, un petit village qui s'appelle Vieux-Moulin, et je connaissais la personne qui était l'aumônière de cet hôpital. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a besoin de personnes? Et puis, tu vois, enfin, après, tout est un peu conduit par Dieu, par la Providence, tu vois. Mais ce qui m'a redonné vraiment envie, c'est cette rencontre très, très concrète avec cette femme. Oui.
Manifestement, ce que vous racontez, ça a l'air de vous rendre plutôt heureux. Donc, c'est pas un secret. Pourtant, enfin, premièrement, c'est pas hyper intuitif, puisque, enfin, comment on fait pour pas absorber la souffrance des gens, ou en tout cas. Est-ce que vous avez une distance froide, mais pas l'impression que vous ayez une distance froide? Et maintenant, comment, sans avoir cette distance froide, vous arrivez à souffrir vous aussi, fait, des gens qui vous racontent des situations difficiles?
Comment dire? Je pense que on est atteint par la souffrance des gens. Enfin, en tout cas, moi, je vous racontais l'histoire de Florence. Là, quand elle m'a raconté son histoire, j'ai vraiment pleuré avec elle. On accueille en nous cette souffrance, tu vois. Mais après, en fait, je pense que c'est beaucoup la prière. Enfin, moi, il y a certaines visites à l'hôpital. Normalement, je visite de telle heure à telle heure. Enfin, c'est à peu près toujours pareil. Mais après certaines visites, Par exemple, bah, le jour de la mort de Rosalba, après, je ne suis pas allée visiter d'autres personnes. Quoi. C'était trop... je suis allée prier. Enfin, ouais. Je pense qu'il y a... ouais. Et il y a quelque chose de... ouais, de très mystérieux et puis qui est... ouais, qui est... dont on parle à Dieu d'une certaine manière, enfin je sais pas, tu vois, et puis qu'on lui remet, enfin bon, après moi c'est aussi beaucoup la présence de la Vierge qui me, je pense qu'à certains moments il y a cette présence maternelle simplement qui peut aider à supporter certaines choses, quoi. Et puis le fait d'être à plusieurs, enfin notre petite équipe est, enfin maintenant on est quatre, avant à un moment donné on était que deux. Bah, c'est sûr que le fait d'être à plusieurs, de pouvoir aussi je sais pas, prier ensemble, porter les personnes ensemble, c'est quelque chose, c'est un soutien aussi. Ouais. Mais après la, enfin, comment dire, ouais, la distance, elle, je pense que la distance, elle, c'est pas une distance froide, mais elle se vit dans le, comme quelque chose de lié à la chasteté, dans le sens où, par exemple, avec Rosalba, au moment de sa mort, j'ai jamais senti de communion peut-être plus grande avec cette femme, et en même temps dans une très très grande distance, parce qu'elle, elle, enfin, elle voyait Dieu déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Elle, oui, je sais pas trop comment expliquer, mais il y a aussi cette il s'agit du lien de la personne avec Dieu auquel on, enfin tu vois, on est là, on sait parce qu'on est là, tu vois, enfin, et en tout cas à ce moment-là, c'est, je voyais que c'était, je voyais réellement la main de Dieu, tu vois, sa providence qui avait, que je sois là à cet instant-là, ça semble, enfin j'aurais voulu le prévoir, le calculer, c'est impossible, quoi, c'est quelque chose qui est dans sa main à lui. Et je pense que c'est une autre forme de distance. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais.
Tu laisses rejoindre l'humilité, peut-être.
Je sais même pas si c'est l'humilité. C'est... ouais. C'est un mystère tellement grand. Je sais pas trop comment répondre. Ouais. En tout cas, je me souviens d'un homme dont la femme était en train de mourir, et comment dire, et il m'a dit non. Enfin, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez que je vienne, est-ce que enfin, en tout cas, il m'a dit oui pour que je reste quelques instants, mais je sentais qu'à un moment donné, ma présence était trop. Enfin, donc je suis partie. Et la fois d'après, je suis revenue, mais ça a été aussi très très bref. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut donner sur le plan humain, tu vois, à travers, je sais pas, le regard. Enfin, c'était, comment dire, ce monsieur-là, j'ai pas beaucoup parlé avec lui, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une rencontre, tu vois, presque dans le silence, parce qu'on voyait sa douleur et qu'il a vu que je la voyais, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu... Après, je pense pas qu'il était croyant. Mais on... ouais. Il y a toujours, en tout cas, sans parler de Dieu ou sans prier avec les gens, je pense, la possibilité d'être un petit signe de quelque chose d'autre. Ouais. Enfin, il me semble. Ouais. Et puis après, il y a aussi ceux qui ont besoin de... Il y avait une dame comme ça en soins palliatifs, c'est son mari qui était en train de mourir. Et en fait, je passais, puis je frappais, puis elle me faisait signe, non, non, non. Et puis à un moment donné, c'était peu de temps après Noël, j'ai voir l'équipe soignante, et puis elle me dit, allez dans cette chambre. Moi, je dis, oui, mais je pense que ça sert à rien, parce qu'à chaque fois, elle me dit non. Et elle me dit, mais là, il est en train de mourir. J'y suis vraiment, j'ai frappé par obéissance en me disant... et en fait, là, la dame m'a... m'a dit oui, enfin, que je pouvais entrer. Et puis elle m'a raconté à Noël que c'était... comment dire, enfin, qu'il y avait tous les enfants qui étaient réunis, les petits-enfants. Sur le tableau, il y avait plein de petits mots des petits-enfants pour leur grand-père. Enfin, c'était... Elle était heureuse de me partager ça. Et puis je lui ai dit, vous voulez qu'on, qu'on prie un Je vous salue Marie pour le passage de votre mari. Puis elle me dit, maintenant oui, maintenant je... oui, c'est le moment. Et enfin, aussi vraiment cette, le chemin de chacun à respecter en fait. Et elle, sa question, je me souviens au début, sa question c'était pourquoi est-ce que c'est si long, qu'est-ce que ce temps qui nous est donné, enfin, à quoi est-ce qu'il peut servir, enfin, elle avait tout un tas de questions auxquelles, enfin, qui on est, enfin, on ne peut pas répondre à ces questions-là en fait. Et puis voilà, à ce moment-là, elle, puis il est après, quand je suis revenue la fois d'après, le monsieur était parti, il était, mais elle m'a dit oui, maintenant je peux. Je ne serais pas capable de faire ça, de proposer ça à mes enfants, mais on peut prier ensemble. Et elle avait dit oui aussi pour que son mari parte. Je pense que parfois il y a des gens qui s'accrochent, mais pour leur conjoint ou pour... C'était...
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ça sert à rien. Ouais. Ouais. C'est sur le...